quels sont les concepts moteurs de la pensée humaine et qui a été déterminant? Eh bien, tout d'abord, je vous rappelle Aristote. Pour Aristote, très rapidement, il n'y a pas de hasard. Il y a du déterminisme, il y a de l'entéléchie, on va y revenir tout à l'heure, et pour lui, finalement, tout réside dans le but. C'est là qu'est l'entéléchie, le but que la nature veut atteindre. Or, le fait même que nous soyons là, ça ne peut pas être le fruit du hasard. Donc ça, c'était la réflexion d'Aristote. Ensuite, il y avait un grand débat. Pour Aristote, le vide n'existe pas. À l'heure actuelle, vous le savez bien, avec toutes les techniques qu'on a pour faire le vide, pour étudier le vide, dans le vide le plus parfait qui soit, eh bien, il y a quand même tant d'atomes, tant de molécules qui se trouvent et qui se trouveront toujours là. Alors l'intérêt maintenant, c'est de comparer Aristote avec les penseurs actuels. Les penseurs, ne l'oublions pas, ce sont des expérimentalistes, ce que n'était pas Aristote. Compiler tout ce qu'Alexandre le Grand dans son expédition lui faisait parvenir, mais ce n'était pas un expérimentaliste au sens sensu stricto du mot. L'expérimentaliste, c'est celui qui met en place une expérience pour essayer de démontrer quelque chose. Et si c'est positif, il va en tirer une loi. Alors pour Monod, eh bien c'est le hasard qui est le moteur de l'évolution. Pour lui, il y a une énorme richesse dans le fonds de commerce, en quelque sorte, du hasard. Tout ce que peut apporter le hasard favorise l'évolution. Donc il n'y a aucun déterminisme là-dedans. Et si, il y a quand même un déterminisme, c'est-à-dire qu'à partir du moment, n'oubliez pas ce que disait Aristote, je ne veux pas y revenir tout le temps, mais c'est l'indéterminé vers le déterminé. On prend du sable, on va obtenir du fer. On aura un moule et on fera une arme. Donc, il y a un déterminisme profond. Eh bien, dans le cas de Monod, ben c'est pareil. Il y a quand même un déterminisme. C'est-à-dire que le hasard, lorsqu'il a réuni un certain nombre d'éléments qui vont donner une forme, cette forme va être pérennisée par quoi? N'oubliez pas que c'est l'inventeur du code génétique, mais pas un code génétique. Le code génétique est censé tout régir. On s'est aperçu que ce n'est pas du tout le cas. Il y a un certain nombre de choses, on ne comprend pas du tout pourquoi elles se réalisent dans le monde vivant, et ce n'est pas la génétique qui va conduire à cela. Donc, pour lui, le hasard est moteur de l'évolution, et si on va un peu plus loin, et d'ailleurs il le dit, il l'affirme, l'homme sait désormais qu'il est seul dans l'univers. Donc le monde vivant, il est arrivé par hasard sur cette planète, et ailleurs dans l'univers, il n'existe pas. Et alors là, je rejoins Christian de Duve, prix Nobel lui aussi, comme Jacob Monod, pour sa découverte du lysosome, chez les animaux, dans les cellules animales. Pour lui, l'univers était gros de l'homme, comme une femme enceinte de son enfant. L'univers était gros de l'homme. Donc, dès que l'univers s'est créé, déjà, l'homme en pointillé y était prévu. Dès que l'univers s'est créé, par exemple, avec la nucléosynthèse, on en a un peu parlé, il va y avoir création d'un atome de silicium, et bien déjà, l'ordinateur était prévu. Il allait arriver. Un jour ou l'autre. Alors ça, c'est le déterminisme. Mais il y a également quelque chose de fondamental chez les biologistes que nous sommes, c'est le problème de la symétrie et de l'asymétrie. Pour les physiciens, le monde est symétrique. Rien n'est plus beau que ce qui est symétrique. À la création du monde, matière, antimatière. Plasma, antiplasma. Vous avez une symétrie. Lorsque vous avez cristallisé un cristal pur, vous avez des axes de symétrie dans le cristal. Et pour eux, c'est la plus belle musicalité de l'esprit, c'est cette asymétrie. Erreur, elle est belle, la symétrie, elle existe, mais elle n'est pas fondamentale. La preuve, si le monde était symétrique, nous ne serions pas là. La matière vivante ne pourrait pas fonctionner. Une simple cellule ne peut fonctionner que par le fait même qu'elle est asymétrique. Asymétrique dans ses constituants comme par exemple le carbone qui lui-même est à la base de toutes les chaînes carbonées et à la base du monde vivant, il est asymétrique. Il est tétravalent, je vous le rappelle. Donc il peut faire de longues chaînes. Et puis ensuite, quand la première cellule, le protombionte ou coacerva, va se créer, eh bien là, il va y avoir une sorte de formation de liposomes, de petits lipides, par exemple, dans une flaque d'eau chaude, soumise aux turbulences. Ce sont les rayonnements cosmiques très violents, les radiations X, gamma, par exemple, l'énergie thermique des volcans, et tout ça casse les molécules. Donc les molécules qui étaient déjà réalisées comme H2O, l'eau, CO2, dioxyde de carbone, vous avez toutes ces molécules-là, l'ammoniac, NH3, eh bien, vont être coupées, N, C, tout ça, des associations qui vont former, par exemple, CH2. RCH, COH, NH2, on a un acide aminé. Et Miller a démontré que dans les conditions recréant ce même type de conditions initiales, qui sont totalement abiotiques en principe, c'est-à-dire au début de la Terre, on aurait mis un être humain, il mourrait dans l'instant même. Eh bien, ce sont ces conditions-là qui ont permis à la vie de se créer. Et dans une flaque d'eau, ces molécules qui se sont formées, par exemple les premières molécules de lipides, CH, eh bien, elles vont spontanément, grâce aux irradiations, à la chaleur thermique ou autre, se mettre en bulle. Et ce sont les premières cellules, les premiers coacervas. Et je vous ai dit qu'il suffisait de mettre dedans un ARN, puisqu'il se forme aussi très facilement, ou alors l'ADN qui est auto-assemblé, pour que la première cellule puisse commencer à fonctionner. Vous avez une enzyme, une phosphorylase par exemple, ou une amylase, l'enzyme qui va commencer à travailler et le phénomène nutritionnel primitif va se constituer au niveau de la cellule.